Bonjour à tous. Donc, je suis François Lafort, je suis associé d'un cabinet qui s'appelle TTLA et Associés. Tessenier Topolov, Laforgue, Andreu et Associés. Nous sommes spécialisés dans la défense des victimes depuis donc plus de 25 ans pour les victimes de l'amiante, plus de 20 ans pour les victimes des essais nucléaires, plus de 15 ans pour les victimes de pesticides. Et nous intervenons également depuis plus d'une dizaine d'années pour des dommages à l'environnement. Donc, je vais essayer d'évoquer avec vous la question de l'imputabilité et du lien de causalité avec en trois ou quatre points. Le premier point, c'est quelle imputabilité et quel lien de causalité. Le deuxième point, j'évoquerai ce que j'aurais dit précédemment appliqué aux pesticides et ensuite aux différents dossiers de entre guillemets santé environnementale que nous suivons, au moins deux d'entre eux. Et puis je terminerai avec un cas d'un éleveur. Concernant donc l'imputabilité et le lien de causalité, il faut bien distinguer donc le pénal avec une interprétation stricte du lien de causalité, où on se rapproche plus d'une nécessité de démonstration d'un lien de causalité certain au sens certitude scientifique, hein, et la matière civile, où le lien de causalité est apprécié différemment et on est dans une certitude juridique qui est différente de la certitude scientifique. Et souvent, il y a une différence d'appréciation entre notre cabinet et les experts dans les affaires que nous suivons. Et donc, on a cette discussion sur la nature du lien de causalité qui est en jeu. Il est différent ce lien de causalité. On a évoqué à la fois des affaires de médicaments et de maladies liées à la prise d'un médicament, et puis également des affaires de reconnaissance de maladies professionnelles précédemment. Et en fait, le lien de causalité est apprécié vraiment différemment entre les deux situations, puisque en matière de maladies professionnelles, eh bien, nous avons un lien de causalité qui repose sur un système de tableau de maladies professionnelles et qui n'est pas un lien de causalité certain, direct, exclusif, mais un lien de causalité qui dépend de l'inscription d'une maladie dans un tableau de maladies professionnelles. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple donc du cancer de la prostate, hein, qui a été évoqué précédemment, eh bien, le cancer de la prostate est dans un tableau puisqu'il a été inscrit dans des tableaux de maladies professionnelles à la fois régime général et régime agricole pour une exposition aux pesticides. Donc dès lors que vous avez été exposé aux pesticides pendant, je pense, au moins 5 ans ou 10 ans, et que vous avez respecté le délai de prise en charge, eh bien, vous bénéficiez d'une présomption d'imputabilité, une présomption de causalité. Après, si vous ne respectez pas, et vous savez certainement pour la plupart d'entre vous qu'il y a trois colonnes dans les tableaux de maladies professionnelles, si vous ne respectez pas l'une des deux dernières colonnes, soit le délai de prise en charge, soit la troisième colonne qui est une liste indicative ou limitative de travaux que vous effectuez, donc si il s'agit d'une liste limitative et que vous ne rentrez pas dans cette colonne-là, eh bien, à ce moment-là, vous devez démontrer, si votre maladie est inscrite dans le tableau, vous devez démontrer, vous, un lien direct, et uniquement un lien direct. Et le lien direct, ça veut dire que vous devez simplement démontrer que vous avez été exposé à un facteur de risque. L'existence de facteurs confondants, de facteurs extra-professionnels, n'est pas pris en compte dans le cadre de l'examen d'une maladie au titre du tableau des maladies professionnelles, lorsque cette maladie est inscrite au tableau. Vous avez des tumeurs de la vessie qui sont inscrites par exemple au tableau régime général Quinster avec les amines aromatiques, donc là vous pouvez en bénéficier. Mais même pour les victimes de pesticides, ceux qui ont été exposés au traitement anticryptogamique dans la vigne, donc à base d'arsenic, eh bien ces personnes-là peuvent bénéficier du tableau au titre des cancers des voies urinaires, hein, puisqu'on a réussi à faire rentrer donc les tumeurs de la vessie ou cancers de la vessie dans ces cancers des voies urinaires, et donc ils ont pu, les personnes que nous défendons ont pu bénéficier de ce tableau. Donc on a eu, quand l'une des deux autres colonnes n'était pas remplie, les conditions prévues dans les deux autres colonnes n'étaient pas remplies, on a pu démontrer le lien simplement en démontrant que la personne avait été exposée à ce facteur de risque qui était l'arsenic. Après, si la maladie n'est pas inscrite au tableau, et ça a été très souvent le cas pour les victimes de pesticides, puisque le lymphome non-Hodgkinien, les leucémies, le myélome multiple, la maladie de Parkinson et cancer de la prostate n'ont été inscrits dans les tableaux régime agricole que finalement relativement récemment, hein, depuis 2012, 2015, et 2019 et 2021. Donc, eh bien, quand ces maladies ne sont pas inscrites au tableau des maladies professionnelles, là, on doit démontrer un lien direct et essentiel. Et donc, toute la différence est là, puisque dans ce cas-là, on doit démontrer non seulement qu'on a été exposé à un facteur de risque, mais en plus qu'il n'existe pas de facteur de risque extra-professionnel ou autre déterminant. Donc nous, on considère que on l'interprète comme cela. On peut dire aussi qu'il faut que le facteur de risque professionnel soit déterminant. Il y a deux appréciations possibles de ce lien essentiel. Mais là, en l'occurrence, pour les cancers de la vessie, le tabagisme joue, puisque lorsqu'il y a du tabagisme, il est pris en compte au titre du lien essentiel. Je prends cet exemple, je suis un peu long sur cet exemple de maladie professionnelle, parce que c'est important, parce que ça vous montre toutes les nuances qu'il peut y avoir dans l'appréciation du lien de causalité en termes juridiques et judiciaires, puisqu'après les affaires sont portées devant les tribunaux. Et dans les deux cas que j'ai évoqués, maladie hors tableau et conditions du tableau non remplies, on passe par le C2RMP avec donc des médecins qui sont amenés à se pencher sur cette nature du lien. Vous voyez qu'il n'y a pas dans aucun des trois cas de nécessité d'un lien exclusif. Ce mot n'apparaît nulle part et ce serait une erreur de considérer que dans le cadre de la reconnaissance de maladie professionnelle, on doit envisager l'existence d'un lien exclusif. Simplement ce que je viens d'indiquer. Deuxième considération sur ces pesticides, et là il y a une évolution de la jurisprudence avec un assouplissement du régime de la preuve, notamment je pense à un arrêt sur un cancer de la vessie précisément d'un arboriculteur, salarié agricole, où la cour d'appel avait indiqué l'imperfection et le doute inhérent à la matière ne doivent pas préjudicier aux salariés, et avait retenu donc le lien de causalité pour ce salarié agricole. Donc vous voyez qu'il y a dans la jurisprudence des formulations qui sont aujourd'hui plus assouplies par rapport à ce que c'était le cas précédemment, donc il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Deuxième considération sur les pesticides, c'est la fondamentalisation des victimes de pesticides. En fait, on s'est rendu compte, nous, quand on défendait des agriculteurs, on a pu défendre des agriculteurs contre des groupes industriels, mais quand il y avait un fait accidentel, c'est-à-dire qu'ils avaient utilisé un seul produit. Mais lorsque, et je rejoins ce qui a été dit par un des médecins tout à l'heure, lorsqu'il y a une exposition chronique à tout un tas de produits, en fait, il est difficile d'identifier le produit qui est responsable de la maladie. Donc, dans ce cas-là, il y a le régime tableau de maladie professionnelle, mais il y a pour attaquer un industriel comme Monsanto, par exemple, eh bien c'est difficile en cas d'exposition chronique, parce qu'on va vous dire, mais qui me dit que ce n'est pas l'autre produit qui est à l'origine de la maladie. Donc nous avons milité pour la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, et qui a été créé, mais qui finalement a été assez dévoyé de son objectif initial, puisqu'il n'a pas permis une réparation intégrale des préjudices des agriculteurs, salariés agricoles et exploitants agricoles. Mais en revanche, il a permis l'indemnisation des enfants dont les parents avaient été exposés professionnellement aux pesticides. Donc ça, c'est la nouveauté, et nous suivons le cas de cette fleuriste, de la petite fille qui est décédée à l'âge de 12 ans d'une leucémie, et dont le lien avec l'exposition de sa mère aux pesticides a été reconnu par le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, sans qu'on ait à porter l'affaire devant le tribunal finalement, puisqu'il y a un comité d'évaluation au sein de ce fonds qui a retenu le lien. Alors le lien, quel est le lien? Là aussi, la nature du lien est très importante, parce que le lien qui a été retenu dans la réglementation créant le fonds d'indemnisation, c'est un lien direct. Et c'est tout. Et on avait milité pour cela, c'est ce qui a été retenu par le législateur. Donc en fait, on a à démontrer uniquement que le produit, les pesticides auxquels étaient exposés les parents, sont des facteurs de risque pour ce type de pathologie. Et là, le législateur nous aide aussi, parce qu'il y a un arrêté qui a été adopté en 2022 et qui prévoit qu'il y a certaines maladies qui permettent une espèce de présomption d'imputabilité, telles que la leucémie, les troubles du neurodéveloppement et d'autres pathologies encore. Donc on a pu obtenir cette reconnaissance du lien de causalité. Et récemment, on a eu des cas beaucoup plus complexes, notamment un cavernum portal, où le fonds d'indemnisation a refusé de reconnaître le lien, et nous avons dû passer en expertise. Et là, c'est intéressant parce que nous avons dû démontrer le lien entre les pesticides auxquels avait été exposée la mère et la maladie de l'enfant, alors qu'il y a très peu de littérature. Et j'en viens à cette question des publications pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, effectivement, nous, quitte à choisir, on préfère une méta-analyse parce que c'est moins contestable. Et donc, dès qu'on a une méta-analyse, on l'utilise. Et puis après, des études plus ciblées, plus... mais dans certains cas, on n'a rien du tout. Et sur le cavernum portal, on n'a quasiment rien. Parce que c'est une maladie extrêmement rare, donc du coup, il y a peu de littérature. Est-ce que l'absence de littérature va nous amener ou va amener l'expert à dire, comme il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de lien ? Bien non. Et c'est la preuve en est ce cas où les experts ont retenu le lien entre le cavernum portal et l'exposition de professionnels des parents aux pesticides. Pourquoi ? Et c'est là où le dossier que nous avons construit a été basé sur des éléments qui ont permis aux experts d'aller dans ce sens-là. Eh bien, c'est qu'il y avait toute une analyse toxicologique avec des mécanismes toxicologiques qui ont été mis en avant par une toxicologue à laquelle nous avons fait appel, qui était présente à l'expertise, et qui a pu discuter avec les experts du mécanisme qui a pu entraîner cette pathologie. Et donc, est-ce qu'on est, et c'était très intéressant votre dernier diapo, est-ce qu'on est dans le vraisemblable, le plausible, le certain, quelle certitude et en fait, les experts ont pu conclure qu'il était très fortement probable ou très vraisemblable, etc., que cette maladie soit liée à l'exposition professionnelle des pesticides compte tenu de différents éléments, aussi l'absence d'antécédents. Et c'est vrai que l'absence d'antécédents pour la victime elle-même, mais aussi au niveau familial, est important. Hein, quand je voyais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de cancer de la prostate dans la famille de la personne qui avait porté son affaire devant la justice, bon, c'est sûr que c'est différent que s'il n'y a aucun antécédent familial, pas de facteur génétique, etc. Donc nous, on essaye d'exclure toutes les causes autres le plus souvent possible, et pour que les experts puissent retenir que celle qui nous apparaît être à l'origine de la pathologie. J'en viens maintenant à mon deuxième propos et dernier propos, c'est sur la santé environnementale et les dommages à l'environnement, mais les dommages surtout aux personnes en lien à l'environnement. Je prends deux exemples, parce que c'est intéressant aussi sur la nature du lien de causalité. C'est la pollution de l'air. Nous avons, depuis 2014, nous sommes intervenus pour des victimes de pollution de l'air et plus particulièrement à la suite d'un pic de pollution en décembre 2016. Donc nous avons déposé tout un tas de recours et c'était très intéressant parce que dans un premier temps, la responsabilité de l'État a été retenue pour ne pas avoir mis en œuvre des mesures efficaces suffisamment rapidement pour arriver à un état de l'air satisfaisant. Et après, les mêmes juridictions ont dit « mais on ne peut pas démontrer de lien de causalité entre cette faute de l'État et la maladie d'un tel ou d'un tel ». Et nous, de dire « attention, il y a l'apparition de la maladie, donc c'était des adultes dans un premier temps, et il y a l'exacerbation des symptômes à l'occasion des pics de pollution ». Et les juridictions ne nous ont pas suivis concernant les adultes parce qu'il y avait, pour les dossiers que nous avions présentés, eh bien, il y avait des facteurs de risque autres, il y avait des antécédents pour ces personnes adultes, etc. Sauf que ensuite, eh bien, des cas d'enfants ont été présentés aux experts et les experts ont retenu cette fois-ci un lien entre les pathologies et surtout l'exacerbation des symptômes des enfants et la carence de l'État. Donc c'est un raisonnement en deux temps finalement. Est-ce que la carence de l'État est à l'origine de pics de pollution finalement, a participé à ces pics de pollution ? Est-ce que ces pics de pollution a participé à l'exacerbation des symptômes ? Et là, nous avons eu un vrai débat juridique devant les juridictions administratives sur la nature du lien de causalité. C'était vraiment très intéressant parce que il y a aujourd'hui, au niveau du Conseil d'État, des rapporteurs publics qui ont considéré qu'il fallait distinguer, quand on parle de liens directs et certains, il faut distinguer le lien le préjudice qui doit être certain, c'est-à-dire que la certitude finalement serait au niveau du préjudice dans ces affaires de pollution, et en revanche, au niveau du lien de causalité lui-même, il devrait être direct uniquement. Vous voyez, préjudice certain, lien direct. Donc il y a une évolution avec un assouplissement de la nature du lien. Les juridictions administratives tiennent compte de ce qu'on appelle les présomptions graves, précises et concordantes, comme des juridictions de l'ordre judiciaire également. Donc on est sur une espèce parfois de faisceau d'indices. Pour ce qui concerne ces enfants, qu'est-ce qu'on a fait ? On a montré qu'il n'y avait pas d'antécédent puisque l'enfant est né sain, je dirais, et que la maladie s'est développée ensuite, qu'il vivait à proximité d'une source de pollution documentée, qu'il y avait une corrélation entre les symptômes et l'exacerbation des symptômes et les pics de pollution à travers le dossier médical, et qu'il y avait en plus une amélioration de l'état de santé de l'enfant lorsqu'il a déménagé en province. Voilà. Ce qui a été un élément aussi qui a été pris en compte par les experts et par les juridictions. Donc nous avons obtenu l'année dernière des décisions favorables à Lyon et à Paris pour des enfants victimes de la pollution de l'air. Je termine avec un autre cas, j'essaye d'évoquer plusieurs cas différents pour aussi susciter la discussion. Hein. C'est le cas de ce jogger dont vous avez peut-être entendu parler, qui est mort sur une plage en Bretagne suite à ce que nous considérons comme l'inhalation d'hydrogène sulfuré. Et donc ce malaise et le décès qui est intervenu et que nous imputons aux algues vertes, donc aux algues en putréfaction. Alors, j'ai plaidé cette affaire devant la cour d'appel de Nantes il y a 2 semaines et la décision sera rendue mardi, le 24 juin. Mais vous savez peut-être que les juridictions administratives, il y a un rapporteur public qui est une personne extérieure qui donne son avis, qui est parfois suivi par les juridictions. Là, en l'occurrence, il nous est favorable, mais ça ne préjuge pas de la décision. Toujours est-il que c'est vraiment très intéressant aussi sur le lien de causalité, parce que nous soutenons que l'État n'a pas mis en œuvre de plan d'action suffisamment efficace ou de plan d'action pour lutter efficacement contre la prolifération des algues vertes en Bretagne, que cette prolifération des algues vertes a entraîné des vasières avec des poches de gaz d'hydrogène sulfuré, et que le jogger, lorsqu'il a marché sur ces poches de gaz, a libéré l'hydrogène sulfuré, il est décédé. Donc nous considérons qu'il y a un lien de causalité direct entre la faute de l'État et le décès du jogger. Vous voyez, c'est quand même, je dirais pas audacieux, mais c'est quand même, par rapport à ce que nous connaissons habituellement, c'est un lien de causalité qui mérite un soin, une attention particulière. Bon. Là, en l'occurrence, c'est de la même façon, eh bien, nous essayons d'utiliser beaucoup de considérations. Des mesures qui ont été faites ce jour-là et les jours d'après, qui démontrent une présence massive d'hydrogène sulfuré. 2, la mort de sangliers, de chiens à proximité immédiate, 1 an avant, 2 ans après et encore cette année. Des autopsies qui n'ont pas été pratiquées sur ce jogger malheureusement, mais qui ont été pratiquées sur les sangliers, qui ont démontré la présence d'hydrogène sulfuré dans le corps des sangliers morts. Donc on a exclu toute autre cause finalement. C'était un ultra-trailer, il était en très grande forme, il avait passé des examens médicaux juste avant. Donc on a exclu toutes les autres causes et on a tenté de faire valoir ce lien de causalité. Vous voyez qu'on se rapproche plus. Comment ? Alors il n'y a pas eu d'autopsie effectivement. Et est-ce que l'absence d'autopsie qui était liée à des circonstances particulières d'une incitation à ne pas réaliser d'autopsie par des personnes qui étaient présentes sur site au moment du décès du jogger, donc des personnes qui ont incité la famille à refuser l'autopsie. Mais est-ce que cette absence d'autopsie entraîne nécessairement l'absence de preuve de l'intoxication et donc l'absence de preuve du lien de causalité? Nous ne pensons pas. Maintenant, on verra mardi si la cour d'appel nous suit, hein, mais il y a toutes les autres considérations qui nous semblent permettre d'établir le lien de causalité. Mais vous avez raison, c'est une vraie difficulté, parce que dans ces dossiers, il y avait une expertise sur l'amiante qui était assez éclairante sur ce point, il faut faire la distinction entre exposition, contamination et intoxication. Et c'est vrai que le plus favorable pour obtenir un lien de causalité, c'est l'intoxication, la preuve de l'intoxication, hein, qui est différente de l'exposition et même de la contamination. Voilà, voilà pour ce cas de Zagevert. Juste pour terminer en conclusion, un cas qui nous rapproche encore de dommage à l'environnement, mais là c'était dommage à un élevage, c'est cette année aussi devant la Cour de cassation, Cour d'appel de Caen confirmée par la Cour de cassation. C'est ces affaires d'éleveurs qui sont sous les lignes à très haute tension, dont les vaches ne produisent plus de lait ou beaucoup moins. Voilà. Et donc, on a pu faire reconnaître le lien. Et là, c'est un régime particulier, c'est ce qu'on appelle le juge de l'expropriation. Et on doit démontrer un lien de causalité direct et certain, mais sur la base de présomptions graves, précises, fiables et concordantes cette fois-ci. Voilà, ça a été obtenu parce que il y avait une apparition de mammites, d'inflammation des mamelles, de qualité du lait qui était moindre, de baisse de production laitière. Et quand ils ont déménagé l'exploitation, ça a tout de suite été beaucoup mieux. Voilà, tous ces éléments-là ont permis de reconnaître le lien de causalité. Donc vous voyez qu'il y a il y a beaucoup de choses qui évoluent sur ces questions-là. C'est vrai que la différence entre imputabilité et lien de causalité juridique est importante. Nous, on essaye de militer pour un assouplissement du lien de causalité dans certaines matières. Les juridictions nous suivent en partie, suivant les dossiers. Mais chaque dossier mérite un examen particulier pour ne pas embarquer les gens que nous défendons dans des procédures qui sont vouées à l'échec. Je vous remercie.